Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle grâce de nous retrouver sous le regard du Seigneur et de partager la parole. Pourquoi ? Bien pour faire de nous de véritables disciples, pour nous préparer à rencontrer Dieu. Pourquoi avons-nous besoin de la parole du Seigneur ? Allez, vous allez m'aider à faire cette prédication. Pourquoi avons-nous besoin de la parole de Dieu ? Alors, à quoi est-elle comparée la parole de Dieu ?
Un miroir.
Un miroir. Bon, eh bien c'est bien. Un miroir pour savoir où nous en sommes avec Dieu. Pour savoir où nous en sommes. Est-ce que vous savez où vous en êtes avec le Seigneur ? Alors nous allons lire juste un texte. Un homme qui s'est retrouvé dans le désert en train de lire le prophète Ésaïe. C'est dans le livre des Actes au chapitre 8. Un homme qui était ministre. Il était ministre et il n'avait pas rencontré Dieu à Jérusalem. C'est terrible ça. Est-ce qu'il y avait un réveil à Jérusalem dans Actes au chapitre 8 ? Est-ce que l'église de Jésus-Christ était arrivée, était réveillée quand on lit Actes, le livre des Actes ? Oui, bon, cet homme, il va à Jérusalem et il ne rencontre pas Dieu. C'est impressionnant quand même. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Vous ne trouvez pas ça étonnant ? Il va dans une ville où il y a l'Esprit de Dieu, où il y a la véritable église, et il ne rencontre pas le Seigneur. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il repart chez lui. Il repart chez lui, 3000 kilomètres sur un char. Il avait été à Jérusalem, on le voit, verset 27, il se leva et partit, voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. C'était bien, non ? Il s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Puis il lui donne les explications, et au verset 35, il lui dit ceci, « Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et l'eunuque et Philippe baptisa l'eunuque. Quelle belle expérience. Vous gardez la page. Et dans le livre des Actes, là, ce n'est pas un ministre, c'est un roi auquel l'apôtre Paul s'adresse. C'est le roi Agrippa, comme quoi, vous voyez, ministre, roi, clochard, qui que nous soyons, nous avons besoin d'entendre la vérité. Donc il se trouve devant le roi. Comment vous parleriez-vous si demain vous deviez parler un clochard ou si vous deviez parler un roi ? Est-ce que vous auriez la même teneur ? Tiens donc, les stagiaires, là. Si demain il faut témoigner un clochard ou témoigner un roi, comment vous feriez ? Vous feriez pareil ? Oui, après peut-être que c'est le vocabulaire que l'on va adapter, peut-être, oui, il y a peut-être des mots qu'un clochard, peut-être il faudra diluer, je ne sais pas. En tous les cas, regardez ce que Paul va dire à ce roi. Verset 17, acte 26, verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. » Voilà donc une partie du discours de Paul à ce roi. Nous avons lu une petite partie du discours de Étienne au premier ministre, au ministre des Finances d'Éthiopie. Donc, qui que nous soyons, nous avons besoin d'entendre la vérité. L'eunuque était quelqu'un de particulier, parce qu'il a été à Jérusalem pour adorer, et malgré le fait qu'il n'ait pas rencontré la véritable Église, qu'il n'ait pas rencontré le Seigneur, il repart, et dans son cœur, il est toujours déterminé. La preuve, il s'était procuré le livre d'Ésaïe, et il lisait le rouleau du livre d'Ésaïe. Il voulait savoir. Non seulement il avait soif, non seulement il s'est intéressé à se procurer des livres de la Bible, peut-être il en a reçu plusieurs, et en plus il était humble. Parce que quand Philippe, le pauvre et le petit évangéliste, s'approche de lui, est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Il aurait pu lui dire, mais attends, tu sais à qui t'as affaire ? Je suis le ministre des Finances d'Éthiopie. Alors tu comprends bien que tout ce que je lis, je le comprends. Vous savez, il y a beaucoup de ministres aujourd'hui qui s'autoriseraient à dire, mais attends, mais moi, je... Non, qui que l'on soit, les choses spirituelles, elles nécessitent une explication. Quelle que soit notre position, quelle que soit notre intelligence, notre instruction, on a besoin d'être éclairé. Et cet homme a été béni parce qu'il cherchait, parce qu'il avait soif, parce qu'il était honnête. Et c'est ça qui détermine la bénédiction. Pourquoi il y a des gens qui ont été bénis, des pauvres ou des rois? Pourquoi, ou des riches, etc., des militaires ou des laïcs? Pourquoi? Parce que c'est des gens qui étaient vrais. C'est des gens qui étaient vrais. Et cet homme, il était vraiment vrai. Il n'a pas fait le malin devant ses serviteurs. Il a dit, comment le pourrais-je? Comment le pourrais-je? Si personne ne me guide. Et vous voyez, il y a des choses qui plaisent à Dieu. Il y a des choses qui font plaisir à Dieu. Il y a des choses qui touchent le cœur de Dieu et qui font qu'on peut obtenir la grâce de Dieu. Cet esprit sincère, cet esprit vrai devant la parole de Dieu. Oui, Paul dit à Agrippa, parce que Paul aurait pu dire, bon tiens, je vais user de démagogie, de diplomatie, comme on le voit aujourd'hui en politique, où les gouvernants, les présidents, etc., font de la démagogie pour plaire au peuple. Ah, il y a beaucoup d'homosexuels, donc on argumente par rapport à leur position, etc. Non. Paul, devant le roi Agrippa, dit, écoute, roi, voilà ce qui s'est passé. Et voilà ce qu'il faut faire. Partout je suis passé, partout, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. J'ai prêché qu'il fallait passer des ténèbres à la lumière. J'ai prêché qu'il fallait passer de la puissance de Satan à Dieu, qu'il fallait passer par une véritable conversion, qu'il fallait passer par la pratique d'œuvres dignes, le fruit de la repentance. Et les œuvres, est-ce que c'est important les œuvres? Ah oui. Vous savez, je repensais cet après-midi à une expérience que j'ai faite il y a quelque temps. J'avais été dans une église, vous savez, quand on s'en va le week-end comme ça dans une église, les pasteurs, on prend 3 ou 4 prédications qu'on a fait dernièrement, on se dit, tiens, celle-là, elle est bien, ah, je vais prêcher là-dessus, tiens, dimanche dernier, j'ai prêché sur la bonne conscience, garde-la, ah, tiens, je pourrais la prendre pour prêcher dans telle ville. Et j'avais pris 3 ou 4 prédications que j'estimais pouvoir faire du bien à l'église. Donc, je suis arrivé dans cette ville la nuit d'avant, et dans la nuit, j'entends la voix du Seigneur, incapable d'aucune bonne œuvre. C'est un verset de Tite. C'était 3h du matin. Et je savais que c'était la prédication pour l'église où j'allais. Donc, comme je n'avais pas préparé, à 3h du matin, je me suis levé et j'ai préparé ma prédication jusqu'à 7h. Et le matin, quand je suis arrivé à l'église, je leur ai dit la vérité. J'ai dit, écoutez, vous savez, quand on est de passage dans une église, souvent on reprend une prédication qu'on a déjà faite. Mais voilà, dans la nuit, à 3h, il y a un verset qui m'a réveillé, incapable d'aucune bonne œuvre. Et j'ai dit, c'est pour vous. Et je dis, voilà, il se peut que dans l'église, il y a des gens qui soient incapables de faire l'œuvre de Dieu, de faire des œuvres pour le Seigneur. Et c'est pas bien. Et à la fin, bien sûr, il y en a plusieurs qui sont venus me voir en pleurant, en me disant, voilà, Dieu m'a parlé, c'était pour moi, etc. Et j'apprécie lorsque une parole de Dieu correspond vraiment à un besoin et que la personne dit, oui, je suis venu dans ta maison ce soir, c'est pour que tu me parles. Et quand on voit cette tenue, comment il a été béni et comment il a été amené à l'obéissance de la foi, amené au baptême, parce que le baptême, c'est quelque chose aussi. Le baptême, non? Est-ce que c'est quelque chose le baptême? Eh oui, c'est quoi le baptême? C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Moi, je me souviens, quand j'ai pris le baptême, c'était quelque chose d'important. Je voulais m'engager avec Dieu. Et cet homme, c'est exactement ce qu'il a fait quand il a vu de l'eau. Il top, 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 top. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et cet homme, bien sûr, il avait déjà beaucoup cheminé. Il lui restait qu'à sceller cette décision. Il voulait obéir à Dieu. Pourquoi Dieu veut qu'on ait des réunions? Pourquoi Dieu veut qu'on ait des moments comme celui-ci? Là, ils étaient tous les deux dans le désert. C'était pas avec ses serviteurs. Oui, le problème, il n'est pas dans la quantité de gens, que l'on soit dans un temple, que l'on soit auprès d'une rivière. Ce qui est important, c'est le cœur. Dieu regarde au cœur. Et vous devez ce soir être capable de dire, mais où j'en suis avec le Seigneur? Comme l'a dit Michael, Dieu compare sa parole à un miroir. Pas un miroir pour qu'on regarde-toi. Non, un miroir, c'est pour qu'on se regarde soi-même et dire, tiens, mais où j'en suis? Vous vous regardez dans un miroir le matin? Oui. Moi, je me souviens de mes sœurs. Quand je pense à ce verset, je pense à mes sœurs. Le matin, qui passaient une heure devant le miroir, clac, clac, vous savez, avec le rimel. Une heure. Je dis, mais elles sont folles. une heure. Mais quand on le fait pour Dieu, quand on passe une heure devant le Seigneur, pour voir vraiment s'il n'y a pas une petite tâche aussi, quelle bénédiction. Et Paul, moi j'aime ce texte, parce que Paul, il devint un roi, malgré le fait qu'il soit emprisonné, il ne la joue pas à la démagogue, il dit la vérité. Et ce soir, vous et moi, nous avons besoin d'entendre la vérité. Seigneur, ouvre-moi les yeux. La première chose que Dieu fait, c'est qu'il nous ouvre les yeux sur notre véritable condition. Est-ce que la religion peut nous sauver ? Non, aucune religion ne peut vous sauver. Aucune. Il n'y a que Jésus qui peut vous sauver. Si vous allez au ciel, c'est parce que vous aurez accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. C'est lui qui vous aura ouvert les yeux. Vous avez le verset 18 toujours, acte 26, verset 18, « Afin que tu leur ouvres les yeux. » La première chose que Dieu fait, il nous ouvre les yeux. Il nous montre quelle est notre condition. Où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je suis sauvé ? Est-ce que je suis perdu ? Est-ce que je suis un véritable disciple ? Est-ce que je, comme le Luc-Éthiopien, est-ce que j'ai cette honnêteté de dire, oui, expliquez-moi, dites-moi la vérité. Parce que c'est ça qu'a fait le Luc-Éthiopien. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Quelqu'un qui a l'honnêteté de dire, voilà, dites-moi où j'en suis. Montrez-moi, je vis ça, ça, ça et ça. Est-ce que c'est honnête ? Est-ce que c'est ce que Dieu attend ? Si on vous dit oui, ben c'est bien. Si on vous dit non, mais qu'est-ce qu'il me faut faire ? Nous rencontrons souvent des gens qui viennent et qui disent au bout d'une réunion, je veux mettre ma vie en règle avec Dieu. C'est beau ça. C'est exactement ce qui se passe. La première des choses, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Voilà la première expérience qu'un homme fait lorsqu'il ouvre la parole. La parole est un miroir, mais la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds, ça veut dire que ce n'est pas un gros flash qui me montre sur 300 mètres, à mes pieds, pas après pas. Voilà, une lampe à mes pieds. Le Seigneur, il nous éclaire pas après pas. Il nous montre, tiens, aujourd'hui, il y a ça qu'il te faut changer dans ta vie. Demain, après-demain, Dieu vous dira, tiens, maintenant, c'est ça. Et voilà quelqu'un d'honnête, quand c'est ça, passer des ténèbres à la lumière. C'est pas dire, ah oui, c'était bien, c'était très intéressant, ce qu'il a dit, oui, c'était bien, ça m'a fait du bien. Non, est-ce que je suis passé des ténèbres à la lumière ? Est-ce que je suis passé de la haine à la paix ? Voilà, c'est ça la lumière. Nous avons un Dieu vivant. On l'a chanté, car rien n'est impossible à notre Dieu. Il ne faut pas que ce soit un petit cœur super allegretto. Ce n'est pas qu'un cœur joyeux, c'est une vérité. Dieu peut changer le mal en bien, afin qu'il passe des ténèbres à la lumière, qu'il passe de la puissance de Satan à Dieu. La puissance de Satan. Vous ne croyez pas que le monde entier est sous la puissance de Satan ? Vous avez besoin d'explications pour qu'on vous le dise ? Non, il n'y a même pas besoin d'explications pour expliquer que le monde gît sous la puissance de Satan. Mais les chrétiens, ils passent lorsqu'ils acceptent cette lumière dans la puissance de Dieu. Et quand on est dans la puissance de Dieu, eh bien on obtient la paix. Gloire à Dieu. Et ce soir, si vous n'avez pas la paix, dites, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Vous vous rappelez ce geôlier de Philippe ? Tiens, là, ce n'était pas un premier ministre, ce n'était pas un roi, c'était un fonctionnaire des casernes. Hein. Eh bien, lui, quand il a vu l'état dans lequel il se trouvait, que tout s'effondrait autour de lui, il a dit à Paul, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ? Et cet homme qui était à deux doigts de se suicider, c'était quand même dramatique, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quelques heures après, il était dans sa maison, en train de se réjouir, dans sa salle à manger, il avait pris le baptême, et il discutait avec l'apôtre Paul, avec Silas, quelle fête ! Oui, on passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, à la toute-puissance de Dieu, lorsqu'on est vrai, et que nos questions ne sont pas calculées, lorsque nos questions ne sont pas des magouilles, mais dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et Dieu n'a jamais méprisé quelqu'un. Il l'a dit, Jésus, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jamais. Et ce soir, si vous êtes honnête, le Seigneur vous aidera. Si vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Tiens, qu'est-ce qui empêche ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous empêcher d'être baptisés ? Eh bien oui. Nous, souvent, moi je me souviens une fois, il y avait 20 personnes qui m'avaient demandé le baptême. 20, c'est beaucoup déjà, 20. Et j'ai refusé à 12. Les 12 ont abandonné. Et les huit sont restés fidèles, ont marché avec Dieu. Et les douze, messieurs, pourquoi vous ne me baptisez pas? Vous ne m'aimez pas? Un black me dit, oui, c'est parce que vous êtes raciste. Je dis, mais bien sûr, oui. Vous voyez combien les gens sont malhonnêtes. Je dis, non, ce n'est pas parce que vous êtes black. C'est parce que vous n'êtes pas converti. Oh, c'est quoi la conversion? Vous voyez, c'est pour vous dire combien les gens sont quand vous êtes converti, vous savez ce que c'est la conversion. Quand vous chantez ce qu'on a chanté tout à l'heure, mes péchés sont pardonnés, vous savez ce que ça veut dire. C'est une grâce de pouvoir chanter mes péchés sont pardonnés. Oui ou non? Il y a des gens qui le chantent, mais ils chantent, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas pardonnés, mais ils chantent. Parce qu'ils ne sont pas passés par la repentance. Et Paul le dit à ce roi, parce que Paul veut que ce roi soit sauvé. On ne sait pas où il est, il doit être mort, Agrippa, non? Il est mort, Agrippa? Oui, ou alors, à part qu'il soit bien vieux. Mais je veux dire, normalement, il doit être mort, je pense. Hein. Bon, et bien, Agrippa, où il est Agrippa? Personne ne sait où il est. Il est au ciel, il est en enfer, personne ne le sait. Mais une chose est sûre, il a entendu ce qu'il avait besoin d'entendre pour qu'il puisse passer des ténèbres à la lumière. Tout roi qu'il était, aujourd'hui, il est dans l'éternité. Et s'il n'a pas pris au sérieux cette prédication, il y a de fortes chances qu'il soit très, très loin de Dieu. Voilà ce que j'ai fait, roi. J'ai prêché la repentance. J'ai prêché pour que Dieu ouvre les yeux des gens. Ce soir, Dieu veut vous ouvrir vos yeux. Il veut que vous passiez des ténèbres à la lumière. Il y a des gens, des fois, ils se font baptiser, mais ils ne sont pas convertis. On le voit, là, ça nous fait mal au cœur. Il y a des gens, ils prennent le baptême, mais ils ne sont pas passés des ténèbres à la lumière. Ils restent dans leur magouille, ils restent dans leur péché. Ils prennent le baptême en pensant qu'en prenant le baptême, Dieu va les bénir. C'est vrai que Dieu bénit, même si vous ne vous faites pas baptiser, de toute façon. Mais on ne cherche pas la bénédiction. On cherche celui qui bénit. On cherche celui qui sauve. À quoi ça sert d'avoir été guéri 3-4 fois, si c'est pour aller en enfer? Vous le savez qu'il y a plein de gens en enfer qui ont été touchés, qui ont été bénis. Moi, j'ai vu des gens, mais c'est la folie, parce que depuis 31 ans que je prêche, j'ai vu des centaines de gens qui ont été bénis, exaucés, et qui ne se sont jamais tournés vers Dieu. Et pourtant, ils peuvent témoigner que le Seigneur est vivant. C'est pour ça que le problème, ce n'est pas de témoigner que Dieu est vivant. Le problème, c'est de dire, je veux que ce Dieu vivant m'entraîne dans sa vie de grâce et de pardon. Oui, pour qu'il passe de la puissance des ténèbres, à la puissance de Dieu, qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Voilà, c'est une chose, le plus grand cadeau que vous pouvez recevoir sur la terre, le pardon des péchés. Avez-vous reçu le pardon des péchés? Si vous l'avez reçu, vous êtes la personne la plus heureuse de la terre. Si vous pouvez dire oui, je sais que Jésus est mort sur le bois de la croix pour me pardonner. C'est le plus beau cadeau qu'un homme peut recevoir sur la terre. Nous avons un Dieu qui pardonne. Et il est assis sur le trône de la grâce, il est là pour pardonner. Hier, je méditais un texte, parce que je réfléchissais pourquoi Dieu a-t-il permis que Israël, le peuple hébreu, reste en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Vous savez qu'il est resté 400 ans en Égypte. Bon, pourquoi? Et je me posais la question, il aurait pu rester 100 ans, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Il aurait pu rester que 300 ans, c'était déjà pas mal. Et en lisant, il est écrit juste après, parce que l'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son comble. Et vous savez que Canaan, c'est l'image de la Jérusalem céleste, on parle de la Canaan céleste souvent, du ciel. Et que lorsque les Hébreux étaient en Égypte, ça représente les chrétiens dans le monde, en attendant de rejoindre la cité céleste. Et vous avez vu ce qui est en train de se passer. J'ai réfléchi par rapport à ce qui s'est passé avec la semaine dernière en France. Vous avez vu comment c'est grave. Mais voyez, l'iniquité n'est pas encore à son comble. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Mais voyez, le péché, il va encore plus s'aggraver. Et c'est là que Jésus va revenir chercher l'Église. Les gens, ils prient, Seigneur, que ça n'arrive plus. Écoutez-moi, je vais vous dire, il faut que le péché soit à son comble. Ce n'est pas écrit que pour les Amoréens, ce n'est pas écrit que pour les Canaan, c'est écrit aussi dans le Nouveau Testament, jusqu'à ce que l'iniquité soit arrivée. Et mes frères et sœurs, je peux vous dire que ce que vous voyez va s'aggraver. Il faut que l'iniquité soit à son comble. Il faut que le monde tombe de plus en plus dans l'apostasie et Jésus reviendra chercher les siens. On reviendra sur cette exhortation parce que je voudrais la faire de manière beaucoup plus claire. Mais une chose est certaine, et c'est pour cela qu'on a besoin du pardon des péchés. On a besoin d'être à l'abri. Je réfléchissais encore quand les animaux sont rentrés dans l'arche. Vous savez que ça a duré longtemps, cette affaire. Hein, jusqu'à ce que l'arche soit construite, jusqu'à ce que les animaux rentrent. Et quand tout le monde était dans l'arche, tout le monde, le Seigneur n'a pas fermé la porte de suite. Combien de temps il a, vous rappelez combien de temps il a attendu? 7 jours. Il a attendu 7 jours, quand tout le monde était dans l'arche. Et Dieu ferma la porte, au bout de 7 jours. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que l'amour de Dieu, la patience de Dieu, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le jugement va venir, mais la porte est encore ouverte. Et ce soir, Dieu permet une réunion comme celle-ci pour que vous puissiez, comme le nuque éthiopien, peut-être comme le roi Agrippa qui a dû dire, tiens, bon, après on voit sa réaction, vous le verrez, mais on ne sait pas le travail que ça a fait. Mais est-ce que je suis sauvé? Vous allez me dire, mais moi je suis pentecôtiste. Est-ce que, je vais vous dire, ce n'est pas parce qu'on a une religion qu'on est sauvé. On est sauvé parce que vraiment, on est passé des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la toute puissance de Dieu, parce qu'on a reçu le pardon des péchés par une véritable repentance. La repentance, c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas regretter. Le Seigneur, il n'a pas dit, « Ah bon, vous venez, ah, venez à moi et soyez gentils, soyez sympas. » Vous voyez, c'est pas ça qu'il a dit le Seigneur. Faites des progrès. Non, le Seigneur, il a dit, « Repentez-vous. » Et tous les apôtres, regardez Pierre, regardez Jacques, regardez... Tous, et Jésus lui-même, tous ont prêché la repentance. La première prédication de Jésus, c'est « Repentez-vous ». C'est par la repentance qu'on entre dans le royaume de Dieu. Et Paul dit à ce roi, je ne suis pas sûr aujourd'hui que tous les pasteurs diraient à des rois « Repentez-vous ». Si demain vous devriez prêcher devant M. Hollande, est-ce que vous direz « Écoute, M. Hollande, eh bien, repens-toi ». Oui, moi, je pense que je le ferai, sérieusement, toute humilité. Parce que si M. Hollande il va aller au ciel, il faut qu'il se repente. Et je pense qu'il en a besoin, vraiment. Plus que notre peut-être. Repentez-vous. Ne dites pas oui, c'est bien, j'aime Jésus. Non, repentez-vous. Si vous voulez aller au ciel, vous ne savez pas ce que sera demain. Je vous avais raconté ce témoignage qu'un pasteur nous a raconté, ça s'est passé il y a une vingtaine d'années, je pense, ou 30 ans. C'était un pasteur, il était devant l'église. Il était devant l'église avec un ancien. Ils attendaient la réunion l'après-midi. Et il y a un jeune qui arrive en moto, vous savez, un petit jeune en moto, là. Il arrive, il faisait le malin. Voilà, il dit, c'est où l'enfer? Il savait qu'il était devant un temple protestant. Et il fait un petit, comment on appelle ça, un petit chassé, là, avec sa manteau, là. Et il dit, c'est où l'enfer? Et le pasteur, il dit, c'est tout droit. Et le gars, il est parti, et à l'anglais, il s'est tué à moto. Il est tombé, il est mort. Une minute après. Vous voyez comme quoi, il ne faut pas rigoler avec ces choses. Il ne faut pas rigoler avec l'éternité. Notre vie ne nous appartient pas. Cette semaine, j'ai vu quelqu'un qui était malade. J'ai dit, écoute, ce n'est pas parce que tu es malade que tu vas mourir. Il y a des gens qui sont en bonne santé qui mourront avant toi. Et la vie, c'est sérieux. L'éternité, c'est sérieux. Lorsqu'on est dans une église, c'est toujours sérieux. C'est très, très, très joyeux. Il n'y a rien de plus beau que le pardon des péchés. Mais tant qu'on ne l'a pas obtenu, ça nécessite que les gens soient sérieux avec la parole. Qu'on vienne pour la guérison, c'est bien. Est-ce que c'est bien que quelqu'un vienne pour une guérison? Bien sûr. Est-ce que c'est bien pour que quelqu'un vienne parce qu'il a besoin d'un travail et que Dieu va pourvoir? Est-ce que c'est bien? Bien sûr que c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes que ce bien-là. C'est le salut de l'âme. C'est que vous alliez au ciel. Écoute-moi, Paul Agrippa, j'ai prêché partout où je suis passé. J'ai prêché le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Car il y a le pardon, mais aussi il y a la joie de faire les œuvres de Dieu. Et c'est avec ça que je veux terminer. Est-ce que vous, en plus du pardon des péchés, si vous êtes devenu chrétien, vous voulez avoir la joie sur la terre de faire la volonté de Dieu? Dites, tiens, tu m'appelles à ça, Seigneur. Eh bien, je vais le faire. Tu m'appelles à tel service dans l'église, je le fais. Tu m'appelles à aider les pauvres, je le fais. Tu m'appelles à ceci ou à cela. Je veux avoir la joie de faire ce que tu me demandes. Est-ce que c'est important pour vous? Ah ouais. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous l'avez lu? Regardez avec moi la fin du verset 18. Il le dit, par la foi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et il recommence, vous voyez, on le relit. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Il parle des villes, puis il dit, j'ai prêché la repentance, la conversion. Vous savez la différence qu'il y a entre la repentance et la conversion? Oui? Vous pourriez le dire? Il prêche la repentance et il prêche la conversion. Beaucoup de chrétiens, même des gens baptisés. Je leur ai dit, dites-moi la différence entre la repentance et la conversion. Ils n'ont pas été capables de le dire. La repentance, c'est que je crois que Jésus-Christ est mort sur le bois de la croix. Alors je lui demande pardon, pardon, pardon pour mes péchés. Et Jésus devient mon sauveur. Mais la conversion, c'est l'obéissance. La repentance, j'accepte Jésus comme mon sauveur. Il a sauvé mon âme. C'est un don, c'est un don. C'est une grâce d'être sauvé. Ça ne s'achète pas, c'est gratuit. Seigneur, merci pour le pardon des péchés. Mais la conversion, c'est l'obéissance. La conversion, c'est j'accepte Jésus comme mon Seigneur. Je veux comme mon Seigneur. C'est Madame Delarbre qui me disait, et c'est une des rares, qui me, et c'est vrai, c'est beau, quand quelqu'un me dit, mais moi j'ai presque plus accepté Jésus comme Seigneur, d'abord, que comme Sauveur. Mais ça, c'est sûr que c'est l'apothéose. Quand quelqu'un est capable de dire, moi je préfère d'abord Jésus comme Seigneur, puis comme Sauveur. C'est vrai que pour l'avoir comme Seigneur, il faut l'accepter comme Sauveur. Mais Jésus est-il votre Sauveur ou Jésus est-il votre Seigneur? C'est ça qu'on est en train de lire. J'ai prêché la repentance et la conversion. Êtes-vous passé par la repentance ou êtes-vous passé par la repentance et par la conversion? Car je peux vous le dire, et j'en suis affligé, dans plein d'églises, il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais passés par une véritable conversion, par la repentance. Alors Jésus, moi oui, Jésus m'a sauvé, merci pour ton sang précieux, mais jamais par l'obéissance. Et ce soir, croyez-moi que cette parole, elle s'adresse à chacun de nous. Oui, j'ai prêché la repentance à Dieu, la conversion, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il y a des fruits. Vous vous rappelez quand les pharisiens s'approchaient au Jourdain, tout le monde se faisait baptiser. Alors, tout le monde se faisait baptiser. Alors, vive le baptême, tout le monde se faisait baptiser. Et puis Jésus regarde les pharisiens, Jean-Baptiste, et il leur dit, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Je ne sais pas s'il a dit sur ce ton, je pense que ça devait être un peu plus incisif. Et il leur dit, produisez du fruit digne de la repentance. Le baptême doit être suivi de fruits. Le baptême doit être suivi d'une véritable conversion. Oui, Jésus, je veux t'obéir. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si on va au ciel, c'est parce qu'on aura obéi. D'ailleurs, il est dit qu'il revient chercher ceux qui lui obéissent. Alors on va fermer les yeux quelques instants. Peut-être quelqu'un dit, mais moi je veux prendre ces choses au sérieux. Je ne vais pas dans une église juste parce qu'il y a de beaux cantiques, parce qu'il y a la communion fraternelle. Non, je veux être prêt quand Jésus reviendra me chercher. C'est votre cas? Eh bien, que le nom du Seigneur soit béni. Notre Père, oui, tu as parlé aux pauvres, aux riches, aux ministres, aux rois. Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Et tu veux que tous les hommes sur la terre entendent le même message, à savoir que tu veux que nous passions des ténèbres à la lumière. Seigneur, merci pour cette soirée. Tu sais qui parmi nous avait besoin d'entendre ce message. Tu sais qui au milieu de nous a besoin de t'accepter comme sauveur, a besoin de t'accepter comme sauveur et Seigneur, a besoin d'entrer dans ces œuvres des fruits de la repentance. Oui, Jésus, tu es un Dieu merveilleux. Tu as sauvé cet eunuque éthiopien. Seigneur, tu as permis que ce jeune évangéliste aille le rencontrer dans le désert. Oui, tu sauras nous atteindre. Partout où des hommes te chercheront, tu enverras quelqu'un pour leur parler. Et ce soir, je veux croire, Seigneur, que tu veux parler à quelqu'un, que tu veux l'amener à une véritable repentance, à une véritable conversion, à une véritable obéissance. Oui, tu es un Dieu qui sauve. Oui, tu nous as montré combien toi le Seigneur, tu as abandonné ton palais de gloire pour venir sur la terre, dans cette misère, mourir sur la croix pour nous ouvrir les yeux. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Jésus, pour ta grâce, ta miséricorde et ton secours. Merci, Seigneur Jésus.